Je suis féministe sur Radio B. Je suis féministe, une expression qui s'emmène partout, à la ville, à la campagne ou même au cœur de la forêt, autour d'un feu. Essayez, vous verrez, ça fait du bien. Mon invité nous en dit plus tout de suite. Je suis féministe. Marie-Alix de Richemont, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est facile pour vous de dire « je suis féministe » ?
Ouais.
Ça l'a toujours été ?
Non, ça l'a pas toujours été, mais ça l'est depuis quand même un certain temps. Et puis on s'habitue vite quand même, je trouve.
Quelles sont les réactions quand vous le dites ?
Ben, ça dépend auprès de qui je le dis, enfin à qui je le dis. Si c'est avec d'autres féministes, en général, on est toutes bien contentes. Après, avec des gens qui ne le sont pas ou qui le sont de façon encore hésitante, par exemple, ça peut susciter beaucoup de questions. Et une troisième réaction différente, c'est l'hostilité. Voilà, y a des gens pour qui cette simple déclaration suscite pas mal de commentaires désagréables, des stéréotypes, voilà.
J'imagine à ce moment-là, il faut expliquer. C'est quoi pour vous le féminisme ?
Alors ça dépend. Je trouve qu'il ne faut pas toujours expliquer. ça dépend des réactions justement. Et les plus agressives, je trouve que dans ce cas, il y a une histoire de foi là-dedans que je n'ai pas du tout envie de traiter. Enfin, je n'ai pas du tout envie d'aller batailler contre ça. Donc voilà, donc les plus agressives, je les mets de côté, puis je laisse les personnes à leur agressivité. Par contre, pour les questions qui me semblent être plus... dans le cadre d'une demande d'information, quoi. Là, ça dépend. Souvent, la question, c'est d'ailleurs pas tellement c'est quoi être féministe, mais c'est plus sur un point de détail qui correspond en général à quelque chose qu'a vécu la personne. Donc, comme le féminisme, finalement, c'est la lutte contre l'oppression et l'exploitation des femmes. Et du coup, ça inclut évidemment plein de choses du quotidien, depuis les tâches ménagères jusqu'à la parole, par exemple. Moi, j'y suis venue comme ça, par les études sur la répartition de la parole entre les femmes et les hommes, dans la conversation, par exemple, ou en réunion, où les femmes sont... on leur coupe la parole, on reformule ce qu'elles disent, et ainsi de suite.
Et justement, on va revenir là-dessus. Vous êtes née en 78 à Paris. C'est à quel moment que vous posez des questions sur votre statut de fille, de jeune femme, de femme ? Comment c'est venu ce questionnement ?
Je crois que c'est venu... c'est difficile à dire parce que je pense que on apprend la différence, entre guillemets, comme l'appelle Monique Wittig. On l'apprend depuis toute petite et tout petit aussi. On apprend qu'on est différent et que voilà, il faut absolument qu'il y ait deux types de personnes qui soient strictement, qui n'aient rien à voir. Donc c'est un peu difficile de dire bon à partir de quel moment on en prend conscience. Cela dit, moi je crois que j'ai quand même pris conscience du fait que il y avait un truc un peu bizarre et qui allait pas trop là derrière tout ça. C'est à partir du moment où j'ai pris conscience d'une accumulation de petites violences du quotidien. Et parfois pas si petites d'ailleurs, qui s'accumulent et puis qui font qu'au bout d'un moment on finit par s'en rendre compte quand même.
Et comment ça s'est traduit sur votre engagement ? À quel moment vous vous dites bon là je passe à l'action, je m'engage ?
Je pense qu'il y a une série de petits déclics qui finissent par provoquer un gros déclic. Et pour ma part, quelque chose qui a beaucoup changé, c'est mon engagement syndical. Parce que je suis prof et je suis à la CGT Éducation. Et il se trouve que dans mon syndicat, il y a un truc qui n'existe pas de façon très fréquente. Il y a un collectif féministe non mixte. Il y a pas mal de syndicats qui font des réunions non mixtes ponctuelles. Mais là, c'est un collectif, c'est-à-dire quelque chose de pérenne, quoi. Avec des camarades qui sont là pour impulser justement les problématiques féministes au sein du syndicat.
Justement, on en parlait avec notre invitée précédente, Patricia Medeviel, qui lutte aussi dans le même syndicat. On a souvent une image plutôt masculine des syndicats. Comment, à un moment donné, s'est créé ce collectif ? Quelle a été la raison ? Pourquoi on s'est dit « on en a besoin » ?
Déjà, l'éducation, c'est un secteur professionnel extrêmement féminisé. Ça dépend des métiers. Il y a certains métiers au sein de l'éducation où c'est à plus de 90% des femmes. Par exemple, je pense aux AESH, les personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Il y a d'autres professions comme ça. Mais bon, globalement, toutes professions confondues, on est de l'ordre de 70% de femmes. Donc déjà, voilà. Et en revanche, dans le syndicat, quel que soit le syndicat, ça ne se traduit pas forcément. Donc voilà, il y a plus d'hommes. Et avec les techniques d'oratoire, par exemple, qui ont pu assimiler les hommes au cours de leur socialisation, ça fait que pour certaines réunions, ça peut être un peu tendu. Et je crois que j'étais pas là à la création de ce collectif, mais je sais, parce qu'on me l'a raconté, que à la suite d'une série de réunions ou d'une réunion où les camarades hommes avaient été particulièrement masculins et insupportables, les camarades femmes étaient sortis en disant oh là là, mais ras-le-bol. Et puis c'était retrouvé en non-mixité, mais en fait sans le vouloir, pour échanger sur ce qu'elle venait de vivre et dire c'est pas possible. Et du coup, à partir de là, s'en est suivi une réflexion et un travail donc en non-mixité qui a été d'ailleurs soutenu beaucoup par beaucoup de camarades hommes aussi. Hein. Donc, voilà.
Justement, qu'est-ce qui s'y passe au sein de ce collectif qui s'appelle La Collective ? Qu'est-ce qu'on y organise ? Quelles actions se mettent en place ?
Alors, au sein de La Collective, c'est une question récurrente. On a souvent envie de dire, on prend le thé, on tricote. Hein. Mais non, en fait, on ne fait pas du tout ça. Il se passe des choses qui peuvent se passer en non-mixité d'une façon générale. Par exemple, le fait de s'écouter les unes les autres par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien au sein du syndicat, bien sûr, mais... aussi beaucoup au sein du travail, voire même au sein de notre vie personnelle. On se soutient. Ça, c'est une chose, et c'est propre à tous les collectifs non mixtes, je pense, de personnes qui subissent une oppression ou une exploitation. Et puis, il y a aussi ce qui concerne le travail syndical à proprement parler, c'est-à-dire impulser les problématiques féministes. Et là, par exemple, nous avons développé pas mal de modules de formation qu'on développe auprès de tout le monde au sein de la CGT Éducation ou auprès des personnels de l'éducation. En général, nos formations sont ouvertes à tous les personnels.
La non-mixité, on la retrouve aussi dans un collectif que vous avez monté avec un groupe d'amis du côté d'Oyonnax, Nantua, Bellegarde. Comment c'est arrivé cette histoire ?
Finalement, c'est arrivé un petit peu pareil que la collective. C'est-à-dire que... À l'origine, nous étions plusieurs au sein d'une association mixte, qui faisait son travail très bien et tout ça. Mais il y a eu une réunion où les camarades, les hommes de l'association ont été chiants. Et du coup, on s'est retrouvés à se dire ça suffit. C'était en plus pour organiser des conférences féministes. Mais on les aime beaucoup quand même, hein. Mais sur le coup, on s'est dit on va se réunir nous toutes seules et puis ça va nous faire du bien. Ce qu'on a fait, et en fait, cette première réunion non mixte a été l'occasion d'avancer vraiment beaucoup. En fait, on a travaillé d'une façon avec une efficacité qu'on n'avait pas eue avant. Et ça a été un révélateur. Et puis ça, c'était pour les camarades de cette association, mais il y en a eu d'autres aussi qui se posaient les mêmes questions. Alors là, je ne sais pas pourquoi elles ont été motivées par ce collectif non mixte, mais elles se posaient les mêmes questions. Et puis finalement, en parlant toutes ensemble, on s'est dit, on va faire quelque chose.
Alors là, il n'y a pas le côté syndicat. Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce que vous pouvez organiser avec ce collectif ?
Alors là, il n'y a pas le côté syndical, même si pas mal d'entre nous sommes quand même militantes syndicales, alors pas qu'au sein de la CGT, hein. Il y a un petit peu différentes étiquettes, mais on s'écoute. Le fait de s'écouter et de partager des expériences, Évidemment, il y a le côté se faire du bien, tout ça, parce que ça apporte du soutien. Mais pas que. Le côté, d'ailleurs, espace safe est toujours un peu compliqué. Enfin, je trouve que c'est une notion compliquée, puisqu'en fait, on n'est jamais totalement safe. Il y a toujours des rapports de domination, y compris en non-mixité, du fait, par exemple, des origines sociales, de la facilité à prendre la parole, etc. Et du coup, au-delà de s'écouter, en fait, on prend conscience aussi du caractère systémique de l'oppression et de l'exploitation qu'on subit, ne serait-ce que parce que, par exemple, quand il y a un récit de violence de la part d'une d'entre nous, il est très fréquent que finalement il y ait beaucoup plus qu'une seule personne qui ait vécu une situation similaire. Chaque histoire est différente, mais en fait, on se retrouve finalement vite à constater que en fait, c'est vraiment ça concerne plein d'entre nous, quoi. Et puis après, on fait d'autres trucs. On a fait, par exemple, on a organisé pendant les manifs contre la réforme des retraites une soirée Saint-Valentin et retraite, dont on était très contente. C'était un détournement de la Saint-Valentin, puisque le pitch, c'était tu es une future jeune retraitée de 59 ans et demi. Ton conjoint te saoule. Voilà, parce que t'es avec depuis longtemps. Et il te saoule. Et comment tu fais pour le larguer et continuer à manger 5 fruits et légumes par jour? Alors évidemment, c'est pas pour dire que c'est pas possible de vivre avec quelqu'un pendant très très longtemps, mais en fait, l'idée, c'était de mettre l'accent sur la dépendance des femmes au moment de la retraite, puisque les femmes touchent 40% de retraite en moins par rapport aux hommes, de façon générale.
L'idée, donc, c'est bien de déconstruire un système, d'essayer de le comprendre, de comprendre les rouages pour essayer au moins de s'en emparer et essayer de réduire la voilure, on va dire. Et ça passe aussi par des actions dans la forêt, autour de feux de bois. Vous m'en avez parlé au téléphone quand on a préparé l'interview.
Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est un truc qu'on a commencé à faire l'année dernière. Et puis c'était tellement bien qu'on en a fait plusieurs. Les réunions non mixtes en elles-mêmes, finalement, il y avait ce truc de se dire, mais c'est vachement bien et tout ça, mais ça restait toujours avec un format réunion assez strict. Enfin, on a pu faire un peu d'autres choses, mais globalement, ça ressemblait toujours un peu à une réunion avec des tours de parole et tout ça. Et tout le monde n'est pas très à l'aise avec ce format. Et qui plus est, ça partait aussi du constat justement de se dire, au sein d'entre nous, il y a aussi d'autres rapports de domination. Donc comment on fait pour travailler sur en fait les conditions matérielles de réunion de façon à au mieux les supprimer, mais voilà, on fait ce qu'on peut, hein, et au pire au moins en diminuer l'impact. Et en fait, le fait de se réunir dehors, on l'a pas forcément conscientisé comme ça au départ, hein, mais moi je l'analyse comme ça a posteriori. Le fait de se réunir dehors autour d'un feu, ça fait qu'il y a moins ce truc de réunion un peu guindé. Et puis aussi, il y a un côté très très émancipant pour pas mal d'entre nous, puisque faire du feu, faire un barbecue, c'est une activité socialement considérée comme très masculine, en fait. Même à la campagne, même pas mal de copines qui ont grandi à la campagne, savent pas forcément faire du feu, parce que c'est le truc que traditionnellement les mecs font, alors que les femmes vont, s'occuper de tout le reste. Des invitations, des courses, de la petite marinade pour les saucisses ou je sais pas quoi, les plats, la déco, les chaises, le confort, les petites bougies éventuellement si c'est chez quelqu'un, enfin bref, tout le truc autour, alors que les mecs vont plus arriver à la dernière minute pour me faire la petite pyramide.
Pour les auditeurs, les hommes qui nous écoutent, à quel moment on intègre les hommes dans votre réflexion? Alors, parce que là, on a parlé vraiment de non-mixité, hein, vous vous retrouvez entre femmes, vous faites le point. Est-ce qu'à un moment donné, les hommes rentrent dans le jeu? Et comment?
On ne peut pas tout faire. Du coup, moi, je dirais que je me concentre, en tout cas, en dehors du syndicat. Je me concentre pas sur les hommes. Après, s'il y en a qui sont... Enfin, envie de discuter, c'est cool, en fait, ça me va bien. Au sein du syndicat, c'est un petit peu différent, bien sûr, puisque là, l'idée, c'est de faire progresser les choses au sein de l'éducation. Et par ailleurs, sur le fond, par contre, les femmes n'ont pas besoin des hommes pour être libres. Par contre, elles en ont besoin pour changer le monde. Et du coup, on a besoin des hommes pour changer le monde. Mais évidemment, c'est quand même plus compliqué à... c'est plus compliqué puisque c'est quand même pas facile de renoncer à plein de privilèges et d'avantages sociaux du seul fait d'être né avec un tampon sur une carte d'identité qui restera toute sa vie, quoi.
Pour vous, Marie-Alix, ce serait quoi les combats des féministes aujourd'hui ? Sur quoi est-ce qu'il faudrait mettre l'accent ?
Eh bien, ça aussi, c'est une question récurrente, mais en fait, je pense que ça dépend beaucoup du courant féministe dans lequel on se trouve. On n'est pas toutes d'accord, il y a une multitude de courants différents. Et pour ma part, mais je pense que le fait que je sois militante syndicale, ça joue beaucoup, je trouve que finalement, c'est compliqué de définir une priorité, dans la mesure où, dès qu'on définit une priorité, finalement, on parle d'un point de vue assez situé, et on a tendance, du coup, à oublier d'autres exploitations, par exemple, et d'autres systèmes d'oppression. Et, par exemple, moi, je trouve que le patriarcat, faudrait l'abolir complètement, qu'il en reste strictement rien. Mais le capitalisme, c'est pas terrible non plus. Et puis, la suprématie blanche et tout ça, c'est pas GG non plus. Donc, en fait, si on pouvait tout faire d'un coup, ce serait bien. Voilà. Mais après, pour répondre à votre question de façon un peu plus pratique, y a tellement de choses qui se présentent que je trouve que peut-être à partir de son point de vue, de sa situation, on peut peut-être déjà agir sur sa propre réalité, par exemple sur l'éducation pour ma part. Enfin, j'essaye de faire ce que je peux, quoi.
Merci Marie-Alix de Richemont.
Merci.
Devenir femme, c'est affronter le couteau, c'est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures, apprendre à saigner, et malgré les cicatrices, faire en sorte de rester belle et d'avoir les genoux assez solides pour passer la serpillière dans la cuisine tous les samedis. Ou bien on se perd, ou bien on se trouve. Ces vérités peuvent s'affronter à l'infini. Et qu'est-ce que l'infini, sinon un serment confus ? Un extrait de Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister sur le titre Sisters du duo canadien The Hallucination. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Je suis féministe.